La mille et une nuits, tome 9, chapitre 3. Histoire du roi Sapor, souverain des îles Bellour, de Kamar al-Zaman, fille du génie Alatros, et de Dorat al-Gouaz. Le roi Sapor, dont l'empire s'étendait sur les îles Bellour, était le plus puissant des monarques qui régnaient aux extrémités de la mer et de l'Orient. Quoiqu'il eût successivement uni son sort à celui de plusieurs princesses, aucune ne l'avait rendu père. Cette pensée l'affligeait, et il se disait souvent à lui-même « Que deviendra bientôt cette puissance que j'ai acquise avec tant de peine et de fatigue? Que deviendrai-je moi-même lorsque je serai plus avancé en âge et que mes forces commenceront à s'affaiblir? Si j'avais un fils, il serait la consolation de ma vieillesse et le soutien de mon autorité. » Tandis que le roi Sapor était plongé dans ses réflexions, il vit paraître tout à coup devant lui un génie d'une figure agréable qui le salua poliment et lui dit « Je suis le génie Alatros, qui commande un grand nombre d'autres génies, et je veux vous donner une preuve de mon attachement et de mon estime. Je sais que vous n'avez point eu jusqu'ici d'enfant. Je viens vous indiquer le moyen d'en avoir et vous proposer pour épouse ma fille Kamar al-Zaman. Elle passe, à juste titre, pour une beauté accomplie. Les plus puissants rois des génies me l'ont demandé en mariage, mais aucun n'a pu l'obtenir. Mon estime pour vous, le désir que j'ai de remplir vos vœux les plus chers, m'engage à vous donner la préférence et à rechercher votre alliance. Vous aimez la justice, et elle fut toujours la règle de vos actions. J'espère que ma fille vous donnera un fils qui marchera sur vos traces, et la naissance de cet enfant est assurée si vous suivez les conseils que je vais vous donner. Redoublez de zèle pour le maintien de l'équité, proscrivez sévèrement l'erreur, les opinions dangereuses, distribuez d'abondantes aumônes aux pauvres et mettez en liberté les prisonniers. En observant fidèlement ces choses, vous obtiendrez enfin ce que vous désirez depuis longtemps. » Le roi des îles Bellour remercia le génie, accepta la main de sa fille et fit dresser le contrat de son union avec la belle Kamar al-Zaman. Le génie Alatros fit signe au génie zélé, qui l'entourait sans être aperçu, d'aller chercher sa fille. Elle parut aussitôt. Son père la prit par la main et la remit à son époux. Le roi Sapor fut ébloui de sa beauté et de la magnificence de sa parure. Il la conduisit dans le plus bel appartement de son palais, ordonna des fêtes et des réjouissances publiques pour la célébration de son mariage et exécuta fidèlement tout ce que lui avait dit le génie son beau-père. Une si belle union ne fut point stérile et l'événement justifia bientôt la prédiction du génie. Kamar al-Zaman devint enceinte et accoucha au bout de 9 mois d'une fille plus belle que l'astre qui préside à la nuit. On prit le plus grand soin de son enfance et on lui fit apprendre de bonne heure toutes les sciences. Dorat al-Gouaz devint bientôt un prodige d'esprit et de connaissances. Elle monta sur le trône des îles Bellour après la mort du roi son père et un grand nombre de génies vint alors se ranger sous son obéissance. Le génie Alaabus, après ce peu de mots, piqua son cheval et disparut. Le prince Habib, étonné de ce qu'il venait d'apprendre, retourna tout pensif vers le château qu'habitait alors l'émir Salama. Au pied de ce château était un vallon, ou plutôt un jardin délicieux planté d'arbres touffus et arrosé par plusieurs fontaines. Le prince s'y étant enfoncé pour rêver à la belle Dorat al-Gouaz, aperçut tout à coup, près d'un bosquet, une jeune personne dont la beauté ravissante et au-dessus de toute expression semblait ne pouvoir être comparée qu'à celle des houris. Le prince, à cette vue, se troubla et ressentit une agitation qui lui était inconnue. « Tant d'attraits, tant de grâces, dit-il en lui-même, ne peuvent appartenir à une simple mortelle. » Prévenu de cette idée et craignant que cet objet charmant ne disparût s'il croyait être aperçu, le prince résolut de se cacher et choisit un endroit favorable à son dessein. Il y était à peine retiré qu'il aperçut une troupe d'oiseaux de la grosseur des colombes dont le plumage brillait de plus vives couleurs qui vinrent s'abattre aux pieds de la belle inconnue. Ces oiseaux, qui étaient au nombre de 40, furent aussitôt métamorphosés en autant de jeunes nymphes d'une beauté admirable, mais cependant bien inférieure à celle qui avait d'abord fixé les regards du jeune prince. Elles s'inclinèrent profondément devant elle, et la saluèrent en l'appelant leur souveraine. Pourquoi, leur dit-elle, ne vous êtes-vous pas rendus ici en même temps que moi? Je vous ai dit que je voulais rendre visite à l'objet de ma tendresse, au prince Habib, fils de l'émir Selama, et je vous ai commandé de me suivre. Qui vous a retenu jusqu'à ce moment? Pourquoi faites-vous si peu cas de mes ordres et ne reconnaissez-vous plus mon empire? Grande reine, répondirent les nymphes, nous n'avons rien de plus à cœur que vous témoigniez notre respect et notre soumission. Mais nous n'avons pu suivre la rapidité du vol de la belle et tendre Dorat al-Gohas. Le prince Habib fut transporté de joie lorsqu'il entendit prononcer le nom de Dorat al-Gohas et fut tenté de se précipiter à ses pieds. Mais l'étonnement que lui avait causé tout ce qu'il venait de voir, la crainte et le respect que lui inspirait la reine des génies, le retinrent encore. « Je veux, dit Dorat al-Gohas à ses nymphes, attendre ici celui que le ciel me destine pour époux. J'ai quitté pour lui la capitale de mes états, et je viens pour le voir des extrémités du monde. Je sais qu'il se promène souvent dans ce jardin, et peut-être qu'instruit de notre commune destinée et de la démarche que l'amour me fait faire, il viendra lui-même me chercher ici. Mais quoi? Mon cœur me dit qu'il n'est pas loin, et il me semble l'apercevoir entre ces arbres qui entrelacent leurs rameaux épais. Pourquoi semble-t-il se cacher? Que craint-il de se montrer aux yeux de celle qui ne craint pas de lui avouer son amour? Le prince sortit du bosquet, transporté de joie, et courut à Dorat al-Gohas. Elle vint elle-même à sa rencontre et lui adressa deux vers dont le sens était que l'amour la rendait malheureuse au milieu de sa gloire et de sa grandeur, et qu'un regard du prince faisait plus d'impression sur son cœur que les hommages et les respects de tous ceux qui l'entouraient. Le prince lui répondit qu'il éprouvait les mêmes sentiments depuis que le génie Zalabous, lui révélant le secret de leur future destinée, lui avait tracé le portrait de celle qui devait enflammer son courage et le faire triompher de tous les obstacles qui s'opposaient encore à leur bonheur. Il ajouta que depuis ce temps, tout lui semblait insipide et que le sommeil n'avait plus pour lui de douceur. Tandis qu'il s'entretenait ainsi, le prince Habib aperçut un oiseau d'une grosseur extraordinaire qui s'abattit devant eux. L'oiseau secoua ses ailes, et l'on ne vit plus qu'un vieillard vénérable dont la figure portait l'empreinte d'une sagesse douce et aimable. Il s'avança vers les deux amants et se prosterna devant eux. « Quel est ce vieillard ? » dit le prince à Dorat al-Gohas. « C'est, répondit-elle, un de mes vizirs, celui qui m'a conduite ici. » Elle se retourna ensuite du côté du vizir et lui demanda quel motif l'avait engagé à venir avant qu'elle l'eût mandé. « Grande reine, répondit-il, je viens vous rendre compte de ce qui se passe dans vos états. Les principaux d'entre les génies demandent à vous voir. Je leur ai dit que vous étiez dans le palais, mais que des affaires indispensables ne vous permettaient pas de vous montrer. Ils ont fait éclater leur mécontentement et se sont plaints que vous n'aviez pas pour eux les égards qu'ils prétendent mériter. Plusieurs d'entre eux, génies malfaisants et dangereux, menacent même de se révolter et de faire soulever la nation entière des génies. Dorat al-Gohas fut moins effrayée des menaces des génies que fâchée de se séparer du prince Habib. « Que ne puis-je, lui dit-elle, vous emmener avec moi et serrer dès ce moment les nœuds d'une union qui doit faire notre bonheur. Mais les destins s'y opposent. Vous ne pouvez être à moi qu'après avoir supporté bien des peines et des fatigues. Pensez à moi dans les moments les plus périlleux, et que le souvenir de Dorat al-Gohas et de ce qu'elle vient de faire pour vous enflamme votre courage et vous élève au-dessus de la condition des enfants d'Adam. » La reine des génies dit ensuite à son vizir de se disposer à la transporter dans ses états. Il reprit aussitôt la forme d'un oiseau d'une grosseur prodigieuse. La reine s'assit sur son dos, salua le prince Habib et s'éloigna rapidement, accompagnée des nymphes qui volaient autour d'elle sous la forme d'oiseaux plus petits. Le prince Habib, après avoir suivi des yeux son amante aussi longtemps qu'il lui fut possible, la perdit de vue. Il demeura quelque temps immobile, tourné du côté où elle avait disparu, et ne put s'empêcher ensuite de verser un torrent de larmes. Cependant, l'émir Selama et son épouse, inquiets de ne pas voir le prince et leur fils, le cherchaient de tous côtés. Étant entrés dans le jardin, ils entendirent de loin ses gémissements et le trouvèrent baigné de larmes et presque sans connaissance. Ils lui firent respirer de l'eau de rose et lui prodiguèrent les plus tendres soins. À peine eut-il ouvert les yeux qu'il recommença à pleurer. Son père et sa mère en firent d'abord autant. et lui demandèrent ensuite quel malheur lui était arrivé et quel sujet faisait couler ses larmes. Le prince leur raconta naïvement son aventure avec Dorat al-Gohaz. Ils en furent un peu plus étonnés et se rappelèrent aussitôt la prédiction du génie qui avait pris soin de son enfance. Ils pensèrent que les dangers dont le prince avait été menacé n'étaient autres que ceux auxquels devait l'exposer la conquête de Dorat al-Gohaz. Ils cherchèrent néanmoins à le détourner de cette entreprise. « Oublie, lui dit son père, tout ce que tu viens de voir. Renonce à un amour téméraire et qui peut être cause de ta perte. »« La mort seule, reprit le prince avec l'accent le plus passionné, peut m'y faire renoncer. Elle serait moins affreuse pour moi que la douleur que j'éprouve en me voyant séparée de mon amante. Je ne peux vivre désormais que pour la chercher, et je ne puis m'arracher des lieux où j'ai eu le bonheur de la contempler que pour voler vers ceux qu'elle habite. » L'émir Selama vit bien qu'il fallait flatter la passion de son fils. Il lui promit d'envoyer de tous côtés des guerriers vaillants et expérimentés pour découvrir dans quelle contrée régnait la belle Dorat al-Gohaz. C'est à moi seul, lui dit le prince, qu'il est réservé de chercher mon amante, et de soutenir les combats et les épreuves qui doivent me rendre digne d'obtenir sa main. Donnez-moi seulement quelques chameaux chargés d'or et d'effets précieux que je puisse lui offrir en présent, et aussitôt je me mets en chemin. Si Dieu conserve mes jours et me le comble à mon bonheur, je reviendrai en goûter auprès de vous les douceurs. Si au contraire, le terme de ma vie est proche, vous devez adorer les décrets du Tout-Puissant. Croyez, au reste, que si je restais près de vous, le chagrin et l'amour m'auraient bientôt consumé. Laissez-moi donc partir et remplir ma destinée. Car depuis que j'ai été conçu dans le sein de ma mère, il est écrit sur mon front que je dois traverser les déserts, franchir les montagnes, parcourir toutes les terres et les mers. Le prince récita ensuite des vers qui peignaient l'excès de sa passion. « Mon cœur, disait-il, est oppressé, le chagrin me dévore. Son absence me fait verser des larmes de sang. Vous qui la voyez, portez-lui mes vœux et faites-lui connaître les tourments que j'endure. » L'émir Selama, voyant qu'il était inutile de s'opposer au dessein de son fils, donna en pleurant les ordres nécessaires pour son départ. 4 chameaux portaient les présents destinés à la belle Dorat al-Gohaz, et 20 chevaliers des plus intrépides devaient accompagner le prince jusqu'aux frontières de l'Yémen. Habib se revêtit d'une cuirasse pareille à celle de David et demanda ses armes. Elles lui furent apportées par ses écuyers, qui lui amenèrent en même temps un superbe cheval arabe qu'il avait coutume de monter. Le jeune prince avait à peine fait quelques milles qu'il sentit son cœur soulagé, son esprit plus tranquille. Il fit part des sentiments qu'il éprouvait à ses compagnons et leur récita 2 vers analogues à sa situation dans lesquels il disait « L'impatience et le chagrin me consumaient. Je sens diminuer mon ennui et s'accroître mon ardeur. Je cours après l'objet de mon amour et je le demande à tous ceux que je rencontre. » Les chevaliers qui accompagnaient le prince Habib étaient depuis longtemps jaloux de sa réputation et n'avaient consenti à le suivre que pour ne pas désobéir à l'émir son père dont il redoutait la puissance. Au bout de quelques jours de marche, ils conçurent l'infâme projet d'ôter la vie au prince et de s'emparer des présents qu'il destinait à son amante. Pour cacher leur crime, ils devaient dire à l'émir Selama que son fils avait succombé à la violence de sa passion. Il était plus facile de former un projet aussi lâche que de l'exécuter. N'osant attaquer le prince à force ouverte, ces traîtres convinrent d'attendre la nuit et de profiter du moment où il serait endormi. On se trouva le soir dans un vallon agréable. Ils prièrent le prince de s'y arrêter et d'y passer la nuit, afin qu'il puisse prendre quelque repos. Le prince y consentit. Mais ses perfides compagnons attendirent en vain qu'il se livrât au sommeil. Toujours occupé de l'objet de ses amours, le prince ne voulut pas même se coucher, et passa la nuit à se promener et à veiller alentour de sa petite troupe. L'un de ces traîtres, plus accoutumé au crime et plus acharné que les autres à la perte du prince, leur dit qu'il connaissait un moyen infaillible de l'endormir et se chargea lui-même de l'exécution. Il avait avec lui quelques gros d'une poudre assoupissante. Il épia un moment favorable et en mêla dans la boisson du prince. L'infâme stratagème ne réussit que trop bien. Le prince éprouva d'abord un violent mal de tête, accompagné d'étourdissements. Ses paupières s'appesantirent, ses yeux se fermèrent, et il tomba dans une profonde léthargie. Assurés du succès de leur crime, ils étaient partagés sur la manière dont ils l'exécuteraient. Les uns voulaient égorger le prince, les autres, ayant horreur de tremper leurs mains dans le sang, proposaient de l'enterrer dans l'état où il était. Le plus jeune de ces chevaliers, nommé Rabia, qui n'osait témoigner ouvertement l'horreur que lui inspirait cet assassinat, mais qui voulait tâcher de sauver la vie au prince, leur dit alors. Plusieurs de nous répugnent, avec raison, à tremper leurs mains dans le sang du prince, mais veulent lui ôter la vie par un autre moyen. Nous pouvons, sans en venir à cette extrémité, satisfaire notre haine, nous débarrasser d'un maître orgueilleux et nous emparer de ses richesses. Le prince ne propendra peut-être jamais l'usage de ses sens, et certainement il ne pourra revenir à lui qu'après un laps de temps considérable. Que pourra-t-il faire lorsqu'il sera seul, sans provisions, et que nous lui aurons enlevé ses armes et son cheval? Il périra infailliblement, en voulant, comme nous ne pouvons en douter, poursuivre son entreprise. Mais au moins, nous n'aurons pas versé son sang de ses mains qui ont serré celles de l'émir en lui jurant de défendre la vie de son fils. » Les perfides chevaliers se laissèrent persuader par Rabia. Ils prirent l'épée, l'armure et le cheval du prince, emportèrent les provisions, les bagages, et s'éloignèrent en faisant la plus grande diligence. Ils délibérèrent de nouveau en chemin sur la manière dont ils annonceraient à l'émir la mort de son fils, et convinrent de lui dire qu'en traversant un jour un désert au milieu de l'ardeur brûlante du midi, le prince avait succombé à l'excès de la fatigue et au feu qui le consumait, et était tombé tout à coup sans connaissance, qu'ils l'avaient relevé et avaient fait pour le secourir tout ce que leurs ailes et leur attachement avaient pu leur inspirer, mais que tous leurs efforts avaient été inutiles et qu'ils n'avaient pu le rappeler à la vie. Ils convinrent encore que, si l'émir leur demandait pourquoi il ne lui avait point rapporté le corps de son fils, il répondrait que la chaleur l'avait corrompu et qu'ils avaient craint que la vue d'un cadavre infect n'augmentât sa douleur et celle de son épouse. Arrivés près du camp, les 20 chevaliers prirent toutes les marques extérieures du plus grand deuil et entrèrent en pleurant et en poussant de grands gémissements. Ils étaient précédés par l'un d'eux, conduisant un cheval qui baissait tristement la tête. L'émir, les ayant vus arriver de loin, s'avança au-devant d'eux, empressé de savoir des nouvelles de son fils. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'il les vit couverts d'habits lugubres, le visage baigné de larmes, et qu'il reconnut le cheval du prince. Les plus noirs pressentiments s'élevèrent alors dans son âme et l'empêchèrent de parler. Les chevaliers se prosternèrent à ses pieds et l'un d'eux lui dit « Seigneur, votre fils n'a pu résister aux fatigues d'un long voyage et à l'excès d'une passion qui ne lui laissait goûter aucun repos. Consumé pendant quelques jours par une fièvre lente, nous l'avons vu tomber au milieu de nous, en traversant dans l'ardeur du jour des sables brûlants. Nous nous sommes précipités pour le secourir, et nous lui avons prodigué les soins qu'il avait droit d'attendre de notre attachement. Mais tous nos efforts ont été inutiles. Il a expiré dans nos bras en prononçant le nom de Dora Talgoas. » Dès que l'émir Selama eut appris cette nouvelle, il arracha ses habits, se couvrit la tête de poussière et s'écria « Ô douleur, ô désespoir, je t'ai perdu, mon cher Habib, toi dont la naissance mit le comble à mes vœux, toi qui faisais la gloire et le bonheur de ton père. Devais-tu périr ainsi à la fleur de l'âge? Était cela le destin réservé à tant de valeur ?» La mère du prince accourut à ses tristes accents et dit au chevalier « Pourquoi ne m'avez-vous pas rapporté le corps de mon fils? Je l'aurais enseveli de mes mains et je lui aurais rendu les derniers devoirs. » « Madame, me répondit celui qui s'était chargé de porter la parole, la nature du mal auquel le prince a succombé était telle et la chaleur si excessive que son corps, devenu d'abord méconnaissable, répandit bientôt une odeur dont les effets ne pouvaient manquer d'être funestes. Nous l'avons recouvert de sable et nous lui avons rendu tous les honneurs que la circonstance permettait de lui rendre. « Je veux, reprit la mère du prince Habib, savoir le nom de l'endroit où vous l'avez enterré. Je m'y rendrai, quel qu'éloigné qu'il soit, et je l'arroserai de mes larmes. » « Madame, répondit le chevalier, cet endroit est situé au milieu d'un désert immense que personne n'avait encore osé traverser et que nous n'avons jamais entendu nommer. » La mère du prince, cédant alors à son désespoir, se frappa le visage et fit retentir l'air de ses cris. Les deux époux prirent le deuil, se couchèrent sur la cendre et firent plusieurs jours sans vouloir goûter de nourriture. Toutes les tribus qui obéissaient à l'émir regrettèrent vivement le prince et témoignèrent publiquement leur douleur. Chacun prit le deuil et crut avoir perdu son appui, son défenseur. Cependant, à l'effet de l'odieuse poudre s'étant dissipée au bout d'environ 2 jours, le prince sortit de son assoupissement au moment où le soleil commençait à s'élever sur l'horizon et lançait ses premiers feux sur la terre. Le jeune Habib porte autour de lui ses regards et ne voit qu'une solitude affreuse et immense. Ses compagnons, ses armes, son coursier, tout a disparu. Indigné d'une si lâche trahison, il ne perdit pas pour cela courage. « Dieu puissant ! S'écria-t-il, c'est toi seul que j'implore. Toi seul, tu peux me secourir dans cette extrémité. Je m'abandonne à ta providence. Dispose à ton gré de mes jours. Mais surtout, affermis mon cœur. Donne-moi la force et la patience qui font tout supporter avec courage. » Le prince Habib, en portant au loin ses regards, aperçut au-delà d'une plaine immense de sable quelque chose de noir qui lui parut être un grand amas de tentes ou une ville considérable. Il se mit aussitôt en chemin dans l'espoir d'arriver à un lieu habité avant que la chaleur devînt plus forte. Le sable dans lequel s'enfoncent ses pas rend sa marche lente et pénible, mais son courage s'accroît par les difficultés. Plongé dans un océan embrasé, dévoré en même temps par l'ardeur du soleil, il n'est occupé que de la grandeur et de la beauté de son entreprise. Les vers se présentent en foule à son esprit sur un si beau sujet. Il chante à la fois les attraits de la gloire, son empire sur les cœurs généreux et les charmes de la beauté qui ne sont pas moins puissants sur les âmes sensibles. Le soleil, au milieu de sa course, dardait sur la terre des rayons de feu, et l'objet vers lequel le prince dirigeait ses pas paraissait toujours aussi éloigné. L'excès de la chaleur et de la fatigue épuisait ses forces, mais ne ralentissait pas son ardeur. Elle vit alors l'air s'obscurcir au-dessus de sa tête, et quelque chose semblable à un nuage qui paraissait s'abaisser. Il distingua peu à peu un oiseau blanc d'une grosseur extraordinaire qui s'abattut devant lui. Ne doutant pas que ce ne fût un libérateur que lui envoyait de Rat al-Goaz, il s'approcha de l'oiseau. Il remarqua que ses pieds étaient semblables à des troncs de palmiers. Il en saisit un et s'y attacha fortement. L'oiseau, prenant aussitôt son essor, le porta rapidement vers l'objet qui, de loin, lui avait paru comme un point noir. C'était une montagne dont le sommet se perdait dans les nuées. L'oiseau s'arrêta doucement sur le penchant de la montagne et disparut. Le prince, ayant fait quelques pas, aperçut une vaste caverne dont une sombre horreur semblait défendre l'entrée. Il résolut d'y pénétrer. À peine fut-il entré qu'il entendit une voix qui l'appelait avec force, et vit paraître devant lui le génie Alarbus. Il tenait de la main gauche un baudrier auquel était suspendu un large cimetière, ouvrage des génies. De la main droite, il tenait une coupe d'or remplie d'une eau propre à réparer les forces épuisées. Il la présenta au prince, qui la prit et la but tout entière. Le prince, charmé d'avoir retrouvé le génie, lui raconta son entrevue avec Dorat al-Goaz et le remercia de lui avoir révélé le secret de sa destinée en lui faisant connaître le bonheur qui l'attendait. « Ce bonheur est encore loin de vous, lui dit le génie. Un espace immense, des mers orageuses vous séparent de la beauté qui fait l'objet de vos vœux. Il vous faudra, pour parvenir jusqu'à elle, braver des dangers de toute espèce, triompher de monstres effroyables, surmonter des obstacles capables de faire pâlir les plus braves et de glacer les cœurs les plus intrépides. Que ne puis-je vous transporter sur le champ auprès d'elle? Mais ma puissance ne s'étend pas jusque-là. Je ne puis plus maintenant qu'une seule chose en votre faveur. C'est, si vous le voulez, de vous reporter en un clin d'œil au sein de votre famille, dans les bras de votre père et de votre mère. » Le génie, en prononçant ces mots, regarda tendrement le prince Habib et le serra contre son sein. Je n'ai pas, lui répondit le prince avec vivacité, quitté volontairement ma famille. Je n'ai pas déjà bravé la mort et je ne suis pas parvenu jusqu'ici pour retourner honteusement sur mes pas. Rien ne peut désormais ébranler ma résolution. Je veux obtenir l'objet de mes vœux ou mourir glorieusement. Le génie Alarbus, voyant le courage et la fermeté du prince, lui parla en ces termes. « Cette caverne renferme les trésors de Salomon, fils de David. Je dois empêcher que personne n'entre ici sans sa permission, et je ne puis en sortir que par son ordre. Ces trésors sont renfermés dans 40 salles situées à droite et à gauche d'une immense galerie. Il ne tient qu'à vous de considérer à loisir toutes ces richesses et de remettre vos yeux du spectacle éblouissant d'un amas prodigieux d'or, d'argent, de diamants, de perles et de rubis. En fouillant sous la porte qui donne entrée dans la galerie, vous trouverez les clés de toutes les portes. Si, peu jaloux du spectacle de tant de richesses et de magnificence, vous voulez franchir la galerie sans vous arrêter, vous verrez à l'autre extrémité un rideau auquel sont attachés 80 agrafes. Prenez garde de lever ce rideau avant d'avoir garni toutes les agrafes avec du coton que je vous donnerai. Lorsque vous aurez levé ce rideau, vous verrez une porte d'or à deux bâtons, au-dessus de laquelle sont tracées des figures mystérieuses, des caractères talismaniques dont il faut, avant de passer outre, comprendre la signification. Prenez garde encore, lorsque vous aurez ouvert la porte, de la repousser rudement. Ne regardez pas derrière vous et ne vous laissez pas effrayer par les génies et les monstres auxquels la garde de cet endroit est confiée. Au-delà de cette porte, vous verrez une mer sans cesse agitée qui renferme un nombre infini de merveilles. Vous vous tiendrez sur le rivage, vous appellerez le premier vaisseau qui passera devant vous et vous lui ferez signe de vous prendre à bord. Je ne puis vous en dire davantage. Je ne sais ce qui va vous arriver ensuite. Et c'est aujourd'hui, mon cher Habib, la dernière fois que je m'entretiens avec vous. » Ce discours remplit de joie le jeune prince. Il prit la main du génie, la baisa et le remercia des avis qu'il venait de lui donner. « Recevez cette épée, » dit alors le génie en présentant au prince le baudrier qu'il tenait. Elle est d'une trempe divine et ne trompera jamais votre courage. » Le prince prit l'épée, se revêtit d'une armure que lui donna en même temps le génie, lui dit adieu et partit. Le prince, en s'avançant dans la caverne, parvint à la première porte dont lui avait parlé le génie. Il creusa sous le seuil et trouva un sac de cuir décoloré et noirci par le temps qui renfermait plusieurs clés. Il prit la première qui se présentait à lui. C'était celle de la galerie. Il y entra et aperçut bientôt devant lui une clarté vive et brillante. Il marcha droit vers cette clarté et arriva près du rideau. Au-dessus était une lance d'émeraude ornée de perles et de diamants dont l'éclat remplissait cet immense souterrain. Sur cette plaque étaient tracés des emblèmes symboliques qui exprimaient ces deux vérités que le prince, qui en était déjà pénétré, comprit facilement. Le monde n'est que vanité et illusion. La patience et le courage triomphent de tout. Le prince s'approcha du rideau pour remplir de coton, selon le conseil du génie Alaabus, les agrafes dont il était entouré. Il vit alors fondre sur lui une multitude infinie de génies, de fantômes et de monstres de toute espèce. Il entendit de tous côtés des cris effrayants et se trouva environné de flammes et de fumées. Sans s'embarrasser des dangers qui semblaient le menacer, il exécuta soigneusement les ordres du génie, leva ensuite le rideau et aperçut une porte qu'il ouvrit facilement. Tous les fantômes disparurent aussitôt. Le prince, se croyant alors à l'abri de tout danger, oublia le dernier conseil du génie et laissa retomber la porte avec bruit. Tous les monstres l'assaillirent alors de nouveau en poussant des cris affreux et répétant à l'envi. « Misérable mortel, pourquoi viens-tu troubler notre repos et souiller nos demeures? Si l'armure dont tu es revêtue ne rendait notre fureur inutile, la mort la plus prompte serait la récompense de ton audace. Mais peut-être ton courage ne sera pas aussi à l'épreuve que tes armes. » En parlant ainsi, les génies redoublent d'efforts et prennent toutes sortes de formes pour jeter le trouble dans l'âme du prince et glacer son cœur d'effroi. D'affreux serpents lancent sur lui leurs dards avec d'horribles sifflements. Des lions rugissants, des tigres furieux se jettent sur lui. Des précipices s'entr'ouvrent sur ses pas, le tonnerre éclate autour de lui. Le ciel s'écroule, la nature entière est bouleversée. Le prince, toujours inébranlable et inaccessible à la crainte, s'avance tranquillement. Les génies reconnaissent alors leur impuissance, se taisent et disparaissent. Le prince, marchant avec plus de liberté et de promptitude, arrivent bientôt sur les bords de cette mer dont les flots étaient sans cesse agités. Il regarda de tous côtés et ne vit paraître aucun vaisseau. Il attendit inutilement tout le jour et passa la nuit dans la plus cruelle impatience. L'aurore vint ranimer le lendemain son espoir, mais son attente ne fut pas moins vaine que le jour précédent. Il souffrait depuis 3 jours toutes les horreurs de la faim et de la soif, lorsque le 4e jour, il vit, au lever de l'aurore, sortir du sein des flots 2 nymphes qui s'entretenaient ensemble. « Savez-vous qui est assis là sur le bord de la mer ? » disait l'une. « Je l'ignore, » répondit l'autre. « C'est le prince Habib, » reprit la première. Il était pris des charmes de la reine Dorat al-Goaz et cherche à pénétrer jusqu'au lieu où elle fait sa demeure. « Comment, » répondit la seconde, « peut-il aspirer à Dorat al-Goaz et espérer de parvenir jusqu'à elle ?» Il ne sait donc pas qu'elle est séparée de lui par un océan dangereux qu'on ne peut traverser en 1 an et sur lequel on est exposé à 1000 périls, auxquels les hommes les plus expérimentés ne peuvent échapper. Qu'en dites-vous, ma sœur? Croyez-vous qu'il puisse venir à bout de son entreprise? Pourquoi pas, répondit la première. Les dangers qu'il a déjà surmontés donnent lieu de croire qu'il triomphera de ceux qui lui restent à courir. Mais il doit s'écouler encore bien du temps jusqu'à ce qu'il obtienne l'objet de ses vœux. Le prince Habib fut transporté de joie de ce qu'il venait d'entendre et oublia la faim et la soif qui le pressaient. Dans ce moment, une 3e nymphe sortit des flots et demanda aux 2 premières quel était le sujet de leur entretien. Lorsqu'elle eut appris qu'elle s'entretenait du prince, elle leur dit « Une de mes cousines vient de venir me voir. Je lui ai demandé si elle avait vu passer quelques vaisseaux. Elle m'a dit qu'elle en avait vu un poussé par un vent frais qui le portait de ce côté. » Les 3 nymphes, ayant fini leur entretien, se plongèrent dans la mer et disparurent. Le peu de mots prononcés par la 3e nymphe avait mis le comble à la joie du prince. Il aperçut bientôt un vaisseau, appela les matelots et leur fit signe de venir le prendre. On lui envoya une chaloupe qui le rendit à bord du navire. Dès qu'il y fut entré, les marchands qui le montaient lui demandèrent qui il était. Le prince leur dit qu'il satisferait leur curiosité dès qu'il aurait pris quelque nourriture. Les marchands lui donnèrent à manger, et il leur dit, lorsqu'il eut un peu apaisé la faim dont il était dévoré, qu'il était lui-même marchand, que son vaisseau avait été brisé par la tempête, que tous ses compagnons avaient péri, qu'il s'était sauvé sur une planche, et que depuis 3 jours, il attendait un vaisseau sur ce rivage. Les marchands, ne soupçonnant pas de déguisement dans le récit du prince, cherchèrent à le consoler et lui promirent de réparer la perte qu'il venait de faire. Au bout de quelques jours, il se leva un vent contraire qui entraîna le vaisseau loin de la route qu'il devait suivre. Le pilote, obligé de céder à la violence du vent, assembla les marchands et leur fit part de ce qui se passait. Les marchands l'exhortèrent à avoir courage, lui firent espérer que le vent contraire cesserait bientôt et qu'il pourrait reprendre sa route. Quelque temps après, il survint un calme profond. Le vaisseau cessa tout à coup d'avancer et resta immobile. Le pilote demanda au marchand si quelqu'un d'eux connaissait la mer dans laquelle il se trouvait. Tous avouèrent que jamais, dans aucun de leurs voyages, ils n'avaient été jetés dans ces parages. Le pilote tint alors au marchand ce langage. « Je ne connais pas moi-même cette mer par expérience, mais, selon mon estime, nous devons être dans la mer verte. Tous ceux qui y entrent ne manquent jamais, dit-on, d'y périr parce qu'elle est habitée par des monstres et des génies malfaisants. Le plus redoutable de ces monstres, celui qui, selon toute apparence, retient en ce moment le vaisseau, s'appelle Gachamcham. Placé dans ces lieux par Salomon lui-même, il enlève les uns après les autres tous ceux qui montent les vaisseaux et les dévore. « Cessez, dit le prince Habib en interrompant le pilote, de vouloir nous effrayer. Ce génie, quelque redoutable qu'il soit, n'est pas invincible, et j'espère vous délivrer tous entre ses mains. » Les marchands, que le discours du pilote avait consterné, ne savait s'il devait ajouter foi aux promesses du prince. Il leur dit de l'attacher à une corde par le milieu du corps et s'élança ainsi dans la mer, tenant à la main son cimeterre. Le prince était à peine sous les flots qu'il vit s'avancer le monstre prêt à le dévorer. Il leva son cimeterre et lui en déchargea sur la tête un coup si furieux qu'il le fendit en deux. Le prince, en agitant la corde à laquelle il était attaché, invertit alors les marchands de le remonter à bord, ce qu'ils firent aussitôt. Le vaisseau partit à l'instant avec la rapidité d'un trait lancé par un bras vigoureux. La surprise et la joie des marchands furent extrêmes quand ils se virent délivrés de ce danger. Ne sachant comment témoigner leur reconnaissance au prince, ils lui offrirent de lui donner tout ce qu'il possédait. Le prince ne voulut rien accepter. Le plus âgé d'entre les marchands reconnut alors qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans cette aventure, et que celui qu'il prenait pour un simple marchand comme eux devait être un homme extraordinaire. Il conjura le prince de ne pas leur cacher plus longtemps la vérité et de leur apprendre qui il était réellement. Le prince refusa longtemps de se faire connaître, mais le vieux marchand le pressa avec tant d'insistance que le prince ne put s'empêcher de céder à ses désirs et lui fit le récit de toutes ses aventures. Le vaisseau continuant toujours de voguer avec rapidité, le pilote reconnut bientôt les parages où il se trouvait. « Réjouissez-vous, dit-il au marchand, votre vie est maintenant en sûreté. Nous avons heureusement traversé les mers les plus dangereuses et nous sommes prêts d'aborder à la capitale du roi Sapor qui règne sur les îles Belloul. » En effet, on aperçut bientôt un rivage sur lequel s'élevait une ville considérable. Le vaisseau entra heureusement dans le port. Il fut aussitôt entouré par une multitude infinie de canots qui venaient pour mettre à terre les passagers et décharger les marchandises. Cependant, Dorat al-Goaz, depuis son retour dans la capitale de ses états, ne pouvait goûter de repos ni prendre, pour ainsi dire, de nourriture. Toujours occupée de son amant, elle s'alarmait des dangers auxquels il s'exposait pour elle. Tandis que, plongée dans ses réflexions, elle s'abandonnait à une douce rêverie, un génie vint lui annoncer qu'il était entré dans le port un vaisseau sur lequel était le prince Habib. La reine, comble de la joie, promit au génie de le récompenser de cette bonne nouvelle et ordonna aussitôt des réjouissances dans toute la ville. Elle voulut que l'air retentît du son des instruments de musique et que l'on étendît des tapis précieux et des étoffes de soie dans toutes les rues par lesquelles le prince devait passer. Elle envoya ensuite une troupe nombreuse de gardes et d'esclaves au-devant de lui pour l'amener dans le palais. On ne peut exprimer quelle fut la joie du prince lorsqu'il se vit possesseur de celle pour laquelle il soupirait depuis si longtemps. Les fatigues qu'il avait supportées, les dangers qu'il avait courus, lui semblèrent alors bien peu de choses. Et le prix qu'il obtenait lui parut infiniment supérieur aux travaux qu'il lui avait mérités. Le prince, parvenu au comble de ses vœux, trouva bientôt qu'il manquait encore quelque chose à son bonheur. Il pensait qu'il ne reverrait jamais sa famille, et cette idée l'affligeait. Il s'en ouvrit un jour à Dorat al-Goaz, qui lui dit de ne pas s'attrister, et lui promit que dans le jour même, il reverrait les auteurs de ses joues. Dorat al-Goaz fit aussitôt venir son vizir, et lui annonçant qu'étant obligée de s'absenter quelque temps, elle l'avait choisi pour lui confier les rênes du gouvernement. Elle fit ensuite assembler les principaux d'entre les génies, et leur fit connaître celui qu'elle avait choisi pour gouverner en son absence. Tous les génies lui protestèrent qu'ils obéiraient au vizir comme à elle-même. La reine leur témoigna sa satisfaction et les congédia. Elle dit ensuite au vizir de se préparer à la transporter avec le prince dans le jardin où il l'avait autrefois conduite. Le vizir prit aussitôt la forme d'un oiseau d'une grandeur et d'une force extraordinaire. La reine et le prince s'assirent sur son dos, traversèrent les airs et se trouvèrent en un clin d'œil dans le jardin où ils s'étaient vus pour la première fois. L'émir Salama et son épouse Kamar al-Ashraf s'entretenaient alors, comme ils faisaient ordinairement lorsqu'ils étaient seuls, du fils qu'ils croyaient avoir perdu et qu'ils ne cessaient de regretter. Tout à coup, ils le virent paraître avec Dorat al-Goaz. À cette vue, qu'ils prirent d'abord pour une illusion, des torrents de larmes coulèrent de leurs yeux. Le prince se jeta à leur cou en les assurant que c'était leur cher Habib qui les embrassait, leur présenta la reine des génies et leur raconta ses aventures. L'émir Selama et son épouse se livrèrent alors à la joie la plus vive et firent annoncer à toutes les tribus le retour du prince Habib. L'émir donna à cette occasion des repas magnifiques et reçut les félicitations de tous les cheikhs. Il fit distribuer de grandes aumônes aux pauvres et ordonna des fêtes qui durèrent pendant 7 jours. Le dernier jour, le prince Habib fit dresser des potences pour les 20 chevaliers qu'il avait si indignement trahis et les y fit attacher. Selama ne jouit pas longtemps du plaisir de revoir son fils. Il mourut peu après son arrivée. Habib fit faire de magnifiques funérailles à son père et donna des marques de la plus vive douleur. Habib se fit ensuite reconnaître en qualité d'émir par la tribu des Benu Hélal, et par les 66 autres tribus qui obéissaient à son père. Cette cérémonie fut accompagnée des acclamations de la multitude qui fit des vœux pour la gloire et la durée de son règne. L'émir Habib ne cessa pas pour cela de régner sur les îles Benlou. La belle Dorat al-Goaz donna le jour à plusieurs princes, qui partagèrent entre eux les états de leur père après sa mort. Scheherazade, ayant achevé l'histoire du prince Habib et de Dorat al-Goaz, sa sœur Dinarzade lui dit « Je ne sais, ma sœur, si le sultan des Indes sera de mon avis, mais il me semble que j'entends toujours vos récits avec un nouveau plaisir. » Le sultan témoigna qu'il pensait comme Dinarzade, et Scheherazade annonça aussitôt qu'elle raconterait le lendemain l'histoire de Naama et de Naam.